Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chères auditrices, chers auditeurs de Radio Alliance Plus. Bienvenue pour cette émission dans nos communautés. Aujourd'hui, je vous propose un partenariat avec Radio Ecclesia. Vous savez que nous travaillons ensemble, nous envoyons respectivement des émissions. Et cette fois-ci, je vous invite à écouter une interview réalisée par Hélène Sauvignon, donc pour Radio Ecclesia. Elle a interviewé le docteur Jacques Jaume. Jacques Jaume que vous connaissez puisqu'il est producteur pour Radio Alliance Plus pour deux émissions, Votre santé, un trésor et une toute nouvelle émission qui s'appelle Et si on parlait ? Alors, il s'est prêté au jeu cette fois-ci du côté de Radio Ecclesia d'être interviewé à son tour, lui qui d'habitude interview à Radio Alliance Plus. Voilà, c'est un échange entre deux partenaires, Radio Ecclesia et Radio Alliance Plus. Et Jacques Jaume a été interviewé donc par Hélène Sauvignon suite à son dernier ouvrage intitulé « La crucifixion au 1er siècle de notre ère dans l'Empire romain ». C'est un livre qui est édité par les éditions Spinel. Et il vient de sortir, et donc le sujet de l'émission et de l'interview de Hélène Sauvignon avec Jacques Jaume, il s'agit de parler de la crucifixion et d'en parler bien sûr comme un médecin aussi, et un médecin chrétien catholique. Voilà donc pour la présentation, et maintenant il ne me reste plus qu'à vous laisser les écouter. Et donc, nous nous retrouverons juste après cette interview d'Hélène Sauvignon avec Jacques Jaume.
En ce Triduum Pascal, nous allons recevoir Jacques Jaume qui va nous parler de la crucifixion. Jacques Jaume est médecin catholique. Un médecin qui s'est spécialisé dans le traitement de la douleur. Maintenant à la retraite, il a plusieurs sujets de recherche et dernièrement, il a édité aux éditions Spinel « La crucifixion au 1er siècle de notre ère de l'Empire romain ». La première question que je lui pose, c'est pourquoi s'être intéressé à ce sujet ?
Les auditeurs de la radio savent que je suis passionné par le linceul de Turin parce que je pense fondamentalement qu'il est le linceul du Christ, et les recherches actuelles, malgré la propagande du carbone 14, tendent de plus en plus à le prouver, mais on en parle de moins en moins. Et donc évidemment, le linceul de Turin, c'est le Christ crucifié. Donc en tant que médecin, la douleur, l'anatomie, la physiologie, et y compris la physiologie des tortures, m'intéresse, bien que le terme « intéressé », il faut bien le prendre, ça m'intéresse en tant que médecin, je ne suis pas passionné par les tortures, mais je suis passionné parce que l'homme peut infliger à son prochain, c'est quand même horrible. Bon, alors ce qui était intéressant, parce que je suis aussi historien, c'est d'avoir une vision transversale, c'est un mot que j'ai utilisé beaucoup, qu'on utilise de moins en moins, c'est une façon d'étudier qui se perd, et de revenir à l'anthropologie. Et j'utilise la méthode médicale pour faire de l'anthropologie. Alors au niveau historiographie, c'est-à-dire l'histoire de la façon d'appréhender l'histoire, l'historiographie change suivant les époques. L'historiographie de la fin du 19e n'est pas la même qu'au début du siècle, n'est pas la même des années 50, n'est pas la même qu'actuellement. Par exemple, actuellement, les historiens étudient mais n'interprètent pas ou donnent pas leur avis. C'est hérétique de donner un avis ou d'interpréter, même si en disant « c'est mon interprétation, c'est quelque chose qui va changer ». L'interprétation actuellement va changer. Ce qui était intéressant dans la crucifixion, c'est de l'aborder, mais d'une manière non chrétienne, par rapport au crucifié, Donc, je me suis basé sur une période, parce qu'il faut se baser dans l'Empire romain, il y a le côté...
Vous voulez dire non chrétien, c'est qu'on n'y donne pas nécessairement un sens spirituel.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les chrétiens qui étaient crucifiés. Oui. Je veux dire, à Nîmes, où j'habite, tout le monde connaît, c'était une ville romaine, Emmaüs, il y a eu des crucifixions. C'était pas que les chrétiens, on a une vision. Bon, comment ça se passait, ça m'était intéressé, parce qu'évidemment, j'ai une documentation de plus de 30 ans d'études et de réflexion actions de recherche et il y a très peu de choses qui sont faites. Notamment, il n'y a pas de livre sur la crucifixion entier. C'est le premier ouvrage sur la crucifixion complète. On parle de la crucifixion du Christ, mais pas de la crucifixion en général. Donc, je me suis basé au 1er siècle, c'est important. Je vous expliquerai pourquoi. Et puis, j'ai étudié au niveau anthropologique, droit de l'époque, sociologique de l'époque, et puis anatomique, médical, technique, avec le matériel que j'avais.
Et les choses se...
Voilà. Et alors, après, il y a une vision qui est celle du livre, mais j'ai 3, 4 ou 5 fois plus de documents, mais il a fallu réduire parce que bon, on peut pas faire une encyclopédie. On pourrait le faire, mais ça intéresserait pas. Alors, il y a des nouveautés parce qu'on les connaît par l'information Internet et les recherches, mais qui sont assez anciennes. Je vous en donne une qui est peu connue. En Pouzzole, en Italie, il y a une bombe américaine qui est tombée sur un lieu. On a découvert, suite à ce traumatisme, un contrat écrit, sculpté, d'une entreprise privée de l'époque, qui était spécialisée pour les enterrements, la prise en charge des corps, les ensevelissements, les crémations et les tortures, notamment la crucifixion. Donc cette idée qu'on a dans les évangiles, c'est les soldats qui est complètement fausse. Les soldats romains, il faut voir sur l'Empire romain au fin 1er siècle, il y avait 300 000 soldats, mais c'était l'élite. D'abord, ils étaient citoyens romains obligatoirement, ils devaient parler le latin, ils étaient formés en droit, ils avaient un engagement particulier, et c'était performant, et ça n'existait pas, cette structure administrative réglementaire, dans les autres pays. Alors les Gaulois se battaient, d'ailleurs le casque romain est un casque gaulois, ils empruntaient ce qui était bon chez les autres. Les Gaulois se battaient, comme les Romains, mais ils n'avaient pas cette vision d'organisation qui a fait que l'armée romaine, qui avait peu de légions, a pu maintenir l'ordre et faire cette conquête. Ça, c'est peu connu. C'est pour ça d'ailleurs qu'en tant que citoyen romain, on leur donnait des terres après. Et que Nîmes a été, Nemosus a été, et donc c'est des anciennes qui ont combattu en Égypte, le palmier et le crocodile, les emblèmes de Nîmes. Pourquoi le 1er siècle? Parce que c'est là où Auguste va transformer la République en empire. Et alors, il y a une conception qui n'existe pas actuellement, les historiens, à mon avis, ne font pas assez d'efforts parce qu'on est dans un monde laïque, c'est que dans l'Empire romain, comme dans l'Antiquité, mais cantonnons-nous dans l'Empire romain, tout était religion. C'est-à-dire que, comme nous, tout est administratif, à l'époque, tout était religion. Vous aviez plusieurs religions. Et il y avait une religion officielle de l'empereur qui était un dieu, puis vous pouviez être fidèle de Mars et puis aller dans des lupanars sacrés avec des prostituées, mais c'était de la religion. Mais, je veux dire, tout était religion, le coin de rue, il y avait des religions. Alors, on le retrouve en Inde, j'ai été plusieurs fois en Inde, on a ça. Donc ça, il faut le voir. Donc, la crucifixion était un acte juridique, mais avant tout un sacrifice humain. Un sacrifice humain au dieu des enfers. C'est-à-dire que le condamné était condamné à la crucifixion, à un sacrifice, avec tout ce que cela comporte. Alors pourquoi, au moment d'Auguste, c'est important? Parce que, à la mort de César, Auguste en fait un dieu. Et comme il est son successeur par testament, eh bien, le successeur d'un dieu, c'est un dieu. Et donc, il prend cette notion d'empire, ce qui était aberrant pour la République romaine qui avait chassé les rois. Donc d'avoir un empereur, c'est encore pire, quoi.
On a fait pareil avec Bonaparte, vous me direz.
Voilà, oui, c'est Napoléon a fait pareil, quoi. Il pouvait pas être roi de France parce que d'abord c'était trop limitatif. Donc il était empereur de royaume. Et c'est ce qu'Auguste a fait, c'est-à-dire qu'il pouvait pas être roi de Rome parce que c'était un blasphème. Donc il a décidé d'être empereur avec des royautés un peu partout.
Alors,
et il a divinisé son empire.
La crucifixion a démarré à ce moment-là est antérieure?
La crucifixion a existé, je dirais, de tout temps. Oui, de tout temps. Les Perses déjà crucifiés. Le fait d'attacher quelqu'un à un arbre et de le laisser mourir, ça existait de tout temps. Alors, après, elle a pris des modalités, des formes, elle s'est structurée. Alors, les premières crucifixions n'en étaient pas, on empalait, donc on a des documents, parce qu'on ne peut pas dire ça, il faut quand même des documents, quand on fait l'archéologie de l'histoire, vos documents. Donc on a des documents que je reprends dans mon livre, où on a sur des chaudrons des marques perses de gens empalés. Donc je ne vous ferai pas un cours sur comment empaler quelqu'un, parce que ça n'intéresserait personne, mais c'est extrêmement compliqué, parce qu'il ne suffit pas de voir quelqu'un empalé, comme au cinéma, il faut savoir comment on fait. Bon, donc c'est ça qui est intéressant. Enfin, c'est intéressant pour le médecin, pour au niveau archéologique. Donc de cet empalement, on a pendu aux arbres. Donc même les Juifs dans l'Antiquité, pendait à l'arbre, on dit pendre à l'arbre, hein, c'est-à-dire qu'on suspendait à l'arbre. Et donc il y a eu des modifications, ce supplice s'est transformé, comme tout était religieux, c'était un acte religieux, c'était un sacrifice humain existe tout le temps. Par exemple, je reviens d'Inde actuellement, une des, on appelle épouses de Shiva, mais qui ne sont pas des épouses, ce sont des dieux qui sont à côté. J'ai vu un sanctuaire où un guerrier s'immole devant une statue, c'est-à-dire qu'il s'égorge pour directement être en contact avec la déesse. J'ai été au Mexique parce que je cite dans mon livre, donc on faisait des sacrifices humains avec des cardiotomies, c'est-à-dire qu'on sortait le cœur du supplicié encore battant et on offrait à la divinité les frémissements du cœur battant. Alors nous, on l'explique au niveau biologie, mais à l'époque, si vous voulez, c'était l'âme, l'émotion qu'on offrait. La douleur, notre définition de la douleur actuellement, c'est une émotion. Donc, faire souffrir pour un sacrifice quelqu'un, c'est lui transmettre, quelqu'un pour une divinité, c'est lui transmettre, lui nourrir de son émotion. On nourrit la divinité du sacrifice par la vie qu'on lui donne. Donc la divinité continue sa vie avec la substance vitale de l'hostie hein, qui est sacrifiée, mais aussi de ses émotions, notamment la douleur. Hein.
Alors, vous me parlez de sacrifice humain. Ce que je comprends, c'est qu'on a cherché à qu'une torture devienne de plus en plus forte, si j'imagine. Si on est passé de la pendaison à la crucifixion, c'était peut-être pour faire souffrir plus la personne qui était condamnée.
Voilà, alors on crucifiait parce que c'était final, il fallait que la personne meure, donc on clouait.
On n'attachait pas avec des cordes.
Non, c'est trop compliqué, il faut simplifier, les bourreaux, simplifier. Dans Spartacus, avec Spartacus, quand c'est crucifié ou à Jérusalem, et quand crucifié des centaines de gens, il faut que ça aille vite. Donc ma
le
modélisation,
clou est plus rapide.
Voilà, moi je peux crucifier quelqu'un tout seul, ça ne me pose aucun problème. Non. Donc on clouait dans les poignets dans un espace radiologique d'Esto, et c'est un médecin lyonnais, un radiologue, a démontré, donc ça maintenant ça pose plus de problèmes. Vous voyez des crucifix, moi j'en prends des photos.
Oui, parce que selon où on met, ça va déchirer la main.
Et donc il avait raison, puisque j'ai démontré qu'on a des artères au niveau de la pomme palmaire, qui fait que si on traversait, on avait des hémorragies artérielles qui fait qu'on mourrait trop vite. Donc le but c'est de mourir un peu lentement pour que ça, l'énergie vitale ait le temps de passer dans le domaine divin. Alors au niveau des pieds, la croix est constituée du stispex, c'est-à-dire c'est le poteau qui est planté en terre, et du patibulum, c'est la croix transversale. Le condamné portait son patibulum, c'est-à-dire sa croix, et puis on le fixait au stispex.
La partie horizontale,
la partie horizontale, on mettait dans les poignets, et la partie des jambes, on pliait. Suivant ma modélisation, mais qui est confirmée par l'archéologie récente, on pliait les deux jambes à hauteur des genoux et on mettait un clou entre le tendon d'Achille et le tibia.
Les deux côtés.
Et comme on suspend des carcasses de bœuf, c'est le mieux. Et là, on respecte les artères aussi.
Jésus n'est pas le premier crucifié de l'époque romaine. Ça, on le savait déjà.
Oui, ça, tout le monde le savait.
Mais
oui, bonjour à vous.
Bonjour. C'est plus répandu que ce qu'on peut penser. Et c'était un métier.
Alors oui, Auguste, par son prise de pouvoir, réhabilite des lois, ce qu'on appelle des lois archaïques.
Ah, ok.
Et ça, c'est important parce qu'il appuie son pouvoir sur des anciennes lois. Cicéron nous en parle. Dans la littérature, il y a très peu d'évocations de la crucifixion. Il y a Plaute qui en parle par des comédies. Tout le monde a peur de la crucifixion parce que le fait d'en parler, ça porte malheur. Parce que les gens qui étaient crucifiés avaient une sentence judiciaire, mais une judiciaire de droit, mais judiciaire religieuse. Ils perdaient leur identité, ils perdaient leur au-delà. Ils étaient sacrifiés au dieu des enfers, au dieu qui habitait au fond de la terre. Donc ils étaient suspendus. La mort par crucifixion est une mort par tétanisation musculaire et par étouffement. Donc ça on le sait de visu, puisque les Autrichiens avaient un supplice dans l'armée où ils suspendaient jusqu'à la limite de la suffocation. Et des témoins ont vu dans les camps de concentration nazis des gens suspendus qui mouraient de suffocation. Pour les gens de l'époque, c'est très important parce que le dernier souffle, il faut être en contact avec la terre. Parce que lorsqu'on fait son dernier souffle, ce souffle est récupéré, l'âme passe par ce souffle pour aller dans l'après-vie, qui se situe elle aussi sous la terre. Donc tous les gens qui meurent par étouffement, qui n'ont pas ce dernier souffle, sont maudits. Les pendus, les noyés, les crucifiés, les étouffés. Une des peines, c'est qu'on enfermait les gens dans des sacs, qu'on retrouve au Moyen-Âge d'ailleurs, et précipités dans l'eau. Donc sans ce dernier souffle, l'âme ne peut pas avoir d'au-delà. Et donc quand on suspendait à la croix un crucifié, Il mourait étouffé dans des douleurs terribles, ces douleurs musculaires, bon, j'en parle dans mon ouvrage, et là j'ai une notion médicale qui est nouvelle, c'est que je pense que les muscles sont des éléments de motricité, mais aussi sont des éléments de sensorialité. C'est-à-dire que ce sont des récepteurs, et notamment des récepteurs à la douleur. C'est-à-dire que c'est pas en médecine, soyez les douleurs musculaires, parce qu'il y a des récepteurs particuliers, une physiologie particulière. C'est à part, mais les torsionnaires savaient l'utiliser. Donc c'est des douleurs généralisées avec un envahissement de douleur. Mais ils étaient étouffés. Et en étant suspendu, si vous voulez, le dernier souffle ne pouvait pas se faire. Donc ils étaient transformés en démons. C'était des démons qui erraient, qui n'avaient pas d'au-delà. Et donc, pour quelqu'un de l'Antiquité, c'était la pire des choses, parce qu'on ne vivait que pour vivre mieux après, dans
donc,
l'Empire.
Plus on crucifiait de gens dans sa ville, plus on avait des démons qui se promenaient.
Voilà, alors c'était terrifiant.
Manière.
C'est pour ça qu'on crucifiait en dehors de l'enceinte sacrée de la cité, pour que ces gens soient, les démons restent en dehors de l'enceinte sacrée. C'est pour ça que le Christ porte sa croix jusqu'au Golgotha, c'est à l'extérieur. Alors, nous, on voit un côté pédagogique sur la route. Alors, on le faisait sur la route parce qu'évidemment, parce que c'était public, donc il fallait le savoir. Mais c'est parce que ces gens devaient mourir à l'extérieur pour deux raisons simples. Parce qu'on ne peut pas mourir à l'intérieur de la cité. Les cadavres étaient enlevés de la cité pour des raisons religieuses et puis hygiénique, on le comprend. Donc il y avait des spécialistes avec un bonnet orange, des professionnels qui venaient chercher les cadavres. Et puis on faisait, c'est pour ça que les bourreaux ont gardé cette coiffe rouge dans la société. Après, une fois qu'ils étaient morts, ils devenaient des démons. Il valait mieux qu'ils errent à l'extérieur que dans la cité. Et donc ils étaient sacrifiés au dieu des enfers, c'est-à-dire qu'ils étaient happés, nourris par les dieux des enfers, on appelle le Zeus des enfers. Enfin, c'est une notion théologique de l'époque. C'est pas des mythes qui sont des histoires. C'est vraiment, il faut y mettre vraiment une connotation religieuse. Les gens croyaient vraiment que les dieux avaient une influence, etc. Pour nourrir ces dieux, c'était le sang qui descendait le long de la croix, qui pénétrait le sol, et en pénétrant le sol, nourrissait la divinité. Donc, il fallait que ça soit du sang veineux. Donc il faut que ça dure. C'est pour ça que dans la crucifixion, il faut éviter les artères. Donc ça, c'est un de mes principes de ma modélisation. Alors j'avais fait un article d'archéologie avec cette notion, parce que j'avais travaillé avec le seul crucifié qu'on avait en 68, avec une poncture, c'est-à-dire un clou, dans un des calcanéums.
Donc, c'est pour où ça, le calcanéum?
Le calcanéum, c'est le dernier os du talon. C'est sur l'os sur lequel on s'appuie. En fait, c'était une erreur de frappe du bourreau, parce que je suis sûr maintenant, on tapait dans l'espace achilléen et tibial. Parce que là, il n'y a pas d'artère, l'artère tibiale est protégée, donc il n'y a pas de problème. Et on mettait de chaque côté du montant qu'on appelle le stipex qui est resté planté. Et récemment, en Angleterre, on a trouvé une tombe d'un crucifié avec un calcanéum percé d'un clou, avec le clou encore. L'étude de la dimension du clou montre qu'il n'était pas là pour le calcanéum parce qu'il n'y avait pas d'empreinte, pas assez de distance dans le bois. Donc c'était pour taper dans l'espace que je définis. C'est pour ça d'ailleurs que ça n'a pas pris, donc on n'a pas pu retirer le clou, mais ça on le sait, des fois il y a des armes blanches qui restent bloquées dans l'os, et donc on a dû le reponctuer. Donc,
le clou a été mal mis,
voilà,
du coup, il a fallu en mettre un deuxième.
Oui, on a mis un deuxième. Quoi, un deuxième à l'espace où il fallait. Alors ce qui est intéressant pour moi, en tant que scientifique et chercheur, c'est qu'en 68, on découvre le calcanéum, etc. Moi, je fais mon article en disant, c'est une erreur, l'espace de crucifixion, c'est entre le tendon d'Achille et le tibia, et il n'y a pas d'artère. Et après l'écriture de mon article, on retrouve une tombe avec la même chose. Donc ça démontre scientifiquement que ma démonstration est vraie.
Alors, quand on avait parlé du Saint-Suaire, on avait aussi dit qu'il y avait eu une flagellation. Et vous m'aviez expliqué qu'il y avait deux types de flagellation. Il y avait une flagellation de mise à mort et une flagellation en vue de la crucifixion.
Voilà. Alors,
est-ce que c'était répondu, ça? On flagellait pour affaiblir la personne?
Alors, la flagellation dans l'Empire romain, c'est courant. On flagellait les enfants à l'école, les animaux, flagellait les femmes. Le pater familial avait le droit de flageller ses filles, ses fils, sa femme, etc. Et il est dit dans le contrat, justement, dont on a retrouvé des traces à Pouzol, qu'on fournissait des cordes. Des cordes, non pas pour attacher, mais pour flageller. C'est-à-dire, et le titulus, c'est-à-dire la condamnation qu'on pendait, pour savoir pourquoi on était traîné. En fait, les premières crucifixions se faisaient avec ce qu'on appelle la fourca, c'est-à-dire que la fourche en latin, c'était ce qui maintenait les charrettes. Vous savez, on en a encore, moi j'en ai récupéré une, pour pas que la charrette soit par terre.
Oui.
C'était, donc on mettait ça sur l'épaule et on pendait les gens comme ça. Puis après, c'était pas facile, donc on a pris un patibulum, c'est-à-dire une planche qui forment les fenêtres. Donc, voilà. Donc moi j'étais à Herculanum pour prendre les mesures, parce que à Herculanum on a du bois romain, alors qu'à Pompéi tout a brûlé. À Herculanum on en a. Donc pour voir les dimensions, etc. Parce que mon prochain ouvrage c'est la croix, hein, l'instrument. Et donc tout au long on les flagellait. Hein, donc voilà. Mais le linceul de Turin, donc c'est en dehors de la flagellation, l'homme du linceul de Turin a subi une flagellation avant, dont le traumatisme qui est bien étudié maintenant, notamment par le docteur François Giraud, que je connais et à qui j'ai repris les travaux, c'était une flagellation à mort, c'est un autre supplice, c'est un projet de livre, ça c'est autre chose. Donc il a été flagellé à mort, on flagellait à mort, c'était une autre chose. Le problème du linceul du Turin qui pose, c'est qu'il a été flagellé à mort, il en est mort, mais il est revenu. Et donc il a bien fallu faire quelque chose, hein, puisque personne n'a participé à sa flagellation. Les évangélistes nous disent qu'il a été flagellé. Et après, il a fallu refaire un procès, ce qui est quand même aberrant, et c'est complètement aberrant, mais enfin, ça c'est le problème du procès de Jésus. Et là, il a été crucifié, donc là il est mort. Et là il est mort pour mieux ressusciter. Et il est descendu aux enfers. Alors nous, il y a une interprétation théologique, biblique, etc. Mais aussi, pour ceux qui savaient à qui on s'adressait, il est descendu aux enfers, dans le monde des dieux infernaux, des enfers maléfiques, mais il est revenu. C'est-à-dire qu'il a vaincu les dieux de l'époque par la résurrection.
C'est
phénoménal, parce que quand on dit que les premiers chrétiens avaient peur de la croix, non. Les premiers chrétiens... Jésus leur avait démontré que la croix, qui était l'infamie, la pire des choses, avait été vaincue, et que les dieux de l'époque avaient été vaincus, et que lui était remonté des enfers infernaux des dieux. Alors, il y a une interprétation biblique. C'est évident que les dominicains me diront que je me trompe et qu'il faut chercher dans les textes, etc. Je suis d'accord. Mais si on est vraiment historien et anthropologue, il a été crucifié au dieu des enfers, mais il a vaincu les dieux des enfers, il est ressorti des enfers, il est ressuscité, et donc il a transformé la malédiction de la croix en espérance, hein, et en charité, puisqu'il a, il est passé par ce supplice terrifiant pour acheter notre incroyance. Nos péchés, c'est pas l'envie de confiture, c'est notre incroyance. Le péché, c'est de se couper de Dieu. Donc c'est de pas croire en Dieu. C'est ça le péché, je veux dire, hein. C'est le péché original. Et faites-moi confiance, on n'a pas fait confiance. Dieu est partout, est en permanence avec nous, on n'y croit pas. Et donc c'est le péché. Mais le Christ est venu, mort, a été sacrifié, il s'est auto-sacrifié. Il savait très bien ce qu'il faisait, puisque c'est lui qui a... C'est un autre travail, mais c'est lui qui a provoqué tout ça. Et c'est lui qui a voulu. Et il est passé par la pire des choses de l'époque.
Mais s'il voulait vaincre les dieux des enfers,
et voilà, il est remonté pour nous dire, il n'y a pas d'arrêt, n'ayez pas peur, quand Dieu est avec vous, vous êtes sauvés, et il nous rachète ce péché.
Merci Jacques Jean, merci de ce que vous nous révélez, ça nous ouvre des horizons et surtout des clés de compréhension.
J'ai vu ton amour plus fort que ma vie, même quand le monde ne comprenait pas, ton cœur parlait encore pour moi. Dans ton silence, il y avait la paix. Dans ta souffrance, une vraie promesse. Au pied de la croix, j'ai trouvé l'espérance. Un amour plus grand que mes résistances. Au pied de la croix, ma foi renaît. Tu fais toutes choses nouvelles, même blessées. Tu aimais, tu n'as pas fui quand tout pesait lourd. Tu es resté par amour, et dans tes mots, donner du bois. la lumière.
Chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, vous nous écoutez sur le 103.2 et vous savez que vous pouvez nous écouter en DAB+, ou bien écouter nos podcasts sur radioallianceplus.fr. Nous venons d'entendre un chant de Rudy Pierre qui s'intitule « Au pied de la croix ». Et puis avant cela, vous avez pu écouter une interview de Hélène Sauvignon avec le docteur Jacques Jaume. Jacques Jaume qui a écrit un livre qui s'intitule « La crucifixion au premier siècle de notre ère de l'Empire romain » et qui a été édité aux éditions Spinel. Et il nous a parlé donc de l'aspect de la crucifixion du point de vue médical en particulier. Et cela a été fort intéressant et fort nouveau pour la plupart d'entre nous, j'en suis sûre. Merci à lui pour cette intervention. C'était donc un partenariat avec la radio, Radio Ecclesia, Radio Catholique, et notre radio, Radio Alliance Plus. Vous pouvez donc interroger le docteur Jacques Jaume, si vous le voulez, en allant sur son site ou en le rencontrant par l'intermédiaire de notre radio. Et sur ce sujet ou sur d'autres sujets, vous pouvez aussi écouter ses émissions « Votre santé, un trésor » ou bien « Et si on parlait », qui est cette toute nouvelle émission. Voilà, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end d'abord, et puis une bonne semaine, et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission avec un tout autre sujet. Bonne semaine, au revoir chers auditeurs et auditrices.